Et ça va commencer. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci de venir à la conférence de la pupe en vol. Quelques petits mots avant de présenter M. Valentin. Je rappelle, il y en a qui le savent déjà pas mal, que la pupe en vol organise des conférences, une conférence par mois, le dernier mercredi, le quatrième mercredi de chaque mois, sur des thèmes variés. La prochaine conférence portera sur la danse. Et elle sera faite par Mme Cathy Pébès. Elle aura lieu à Carbonne. Alors, je vais vous donner les prochaines conférences. Il y a donc... non, je me trompe, pardon. Ah si, c'est ça. C'est le mercredi 18 novembre à 20h30. Donc, un peu plus tôt que d'habitude. Un peu plus tard que d'habitude, 20h30. Décidément. La conférence suivante a lieu, c'est Astronomie et calendrier par Jean-Noël Sarail. Le 27 janvier, il y a une conférence sur Renoir et Dufy, un même destin rhumatismal, c'est-à-dire les affections que ces deux peintres ont eues. Le 6 février, le boson de Higgs, 24 février, par Dominique Odiro, ici présent. Le 16 mars, à Carbonne, en partenariat avec le Ciné Carbone, une conférence, le thème du festival de cinéma et l'amour dans tous ses états. Je ne peux pas encore vous donner le titre de la conférence que la pupe en vol présentera. Le 30 mars, Nucléaire et Société, par Jean-Jacques Delfour. Le 27 avril, La Peste, Moyen-Âge et Arrieux, par Francis Despierre. Et le 25 mai, à Carbonne, le cinéaste Renoir. Les grandes lignes de son parcours avec une projection de Parti Campagne. Le 22 juin, donc juste avant les vacances, un sport, l'ULM, l'aviation, loisirs de demain par Michel Durand. Voilà le programme des prochaines conférences de la pupe en vol. Ce soir, donc, une conférence par M. Valentin, qui se définit lui-même comme une personne de bon sens, un terrien, quelqu'un qui cherche à essayer d'allier les nouvelles technologies, les contraintes et les défis qui se posent à nous actuellement en termes d'écologie, en termes de limitation de déplacement, en termes de recherche pour les personnes de plaisir ou avoir une possibilité d'avoir une vie familiale, tout en conservant un travail, donc une méthode, une situation qui permet aux gens de s'épanouir et dans le travail et dans leurs loisirs. Je ne sais pas si je ne trahis ce que vous voulez présenter. Je ne vais pas aller plus loin parce que le télétravail, je le connais peu. Certains le connaissent sûrement mieux que moi. Et je lui laisse la parole.
Merci et bonsoir à toutes et à tous. Donc là, il fait vraiment bien noir pour le coup. Alors, j'ai quand même essayé au moins de trouver l'endroit pour pouvoir cliquer sur le bon bouton. Voilà, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Super. Voilà. En une phrase, ce qu'on pourrait dire, c'est que je cherche à faire en sorte de rapprocher l'emploi de l'habitat. Quand on dit ça, effectivement, c'est une phrase, mais qui va nous amener peut-être à faire déjà un retour en arrière. Et ce que je vous propose, c'est qu'on revienne de suite sur une époque qui est le 19e siècle. 19e siècle, révolution industrielle, on a une concentration des populations et on ne se pose pas trop de problèmes parce que l'usine draine une activité et tout le monde vient travailler à pied, en vélo, et même l'industriel s'occupe de loger ses salariés. Donc on a une concentration urbaine importante, une concentration de la population. On sait ce qui se passe, hein, beaucoup d'usines ont fermé, on a dans les années 50 vu arriver l'automobile qui a contribué à la périurbanisation de l'habitat. Je fais juste une petite parenthèse quand même aussi, si on fait très retour en arrière aussi, et c'est un point qu'on avait évoqué avant de démarrer. Avant, les villages se concentraient autour de la fontaine, d'un point d'eau. L'adduction d'eau a permis l'éclatement du village. On a commencé à avoir des maisons qui ont été bien plus loin que le point central de la fontaine et du point d'eau central. Je fais juste une parenthèse, on en reparlera plus tard. Donc, on est dans les années 50, et effectivement, on a le développement de l'automobile, et on a commencé à avoir comme ça des territoires qui sont devenus ce qu'on appelle dortoirs, avec une concentration qui a amené quoi. Je vais vous faire un petit film, parce que certains savent précisément de quoi il s'agit. C'est effectivement... si ça marche... de cela. Alors, attendez, parce que là, vraiment, c'est compliqué, une autre solution. Alors, la solution, avant d'arriver à cette solution, c'est beau la technique, hein, mais... voilà. Allez. Donc, c'est notamment les embouteillages que vous connaissez quand vous allez sur Toulouse. Donc, ça, c'est ce qu'on voit tous les matins lorsqu'on va travailler sur Toulouse. Nous sommes sur un territoire dortoir. C'est la perte de temps. Du stress. Alors, effectivement, il y a plein de solutions. Et actuellement, en pleine veille d'élections régionales, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Là, c'en est une. Très radical, on s'emmène directement sur son poste de travail. Il y a d'autres solutions telles que le métro, une nouvelle rocade, la circulation alternée. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est une autre solution. C'est ce qu'on appelle effectivement le télétravail. On va en parler tout au long de cette intervention. Quand on parlait de bon sens paysan, vous voyez, c'est une phrase qui consiste à dire que les trajets les plus rapides, les moins polluants, les moins stressants, sont ceux qu'on ne fait pas. Alors quand on dit ça, souvent on me dit « Mais attendez, M. Lantin, vous êtes hors sujet, on est en train de parler de mobilité et vous parlez de non-mobilité. » Il en est de même au niveau de l'économie d'énergie. Hein. L'énergie la moins coûteuse, c'est celle que l'on ne va pas gaspiller. Donc, toute l'isolation et toutes les campagnes pour améliorer l'isolation de l'habitat. Donc en fait, on va ce soir parler de deux révolutions. On a une révolution sur la problématique de mobilité. Et on a une autre évolution qui consiste aujourd'hui à avoir une autre approche du travail, donc une nouvelle forme du travail. Et vous allez voir que c'est pas neutre parce que ça va contribuer à apporter des solutions à des territoires aujourd'hui qui sont des territoires dits ruraux et qui ont perdu, et qui perdent pour certains un peu leur identité parce qu'ils ont vu arriver des nouveaux habitants, une nouvelle population qui sont venus chercher un habitat attractif, qui ne sont pas forcément issus du territoire, et qui viennent travailler sur les métropoles avec toutes les contraintes que ça génère. On va en parler. Alors, après ce petit film, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans les années 90, en même temps, avec la problématique de la mobilité, on a vu aussi arriver ce qu'on appelle les open space. Hein, c'était quoi la problématique des open space? C'était... alors au départ on disait oui, il faut créer de la fertilisation croisée entre les différents collaborateurs, on va contribuer à l'innovation, on va fluidifier la communication. En fait, la réalité plus économique était de faire en sorte que le prix du mètre carré coûte moins cher par collaborateur. C'est-à-dire plutôt d'avoir un bureau de 10 mètres carrés pour un collaborateur, on réussissait à en mettre 3 ou 4 dans 15 mètres carrés parce qu'on avait un open space. Beaucoup d'ouvrages ont été publiés sur les open space, et notamment des open space effectivement qui vont provoquer des notions de stress et de burn-out, hein, de suicide, parce qu'effectivement, ce stress, ce bruit permanent, et aujourd'hui toutes les études ont démontré que ça faisait baisser la productivité Et aujourd'hui, on a cette notion importante qui est en train de naître dans les entreprises, liée à la responsabilité des sociétales, des entreprises, donc, par rapport aux risques psychosociaux. Hein, une entreprise aujourd'hui peut être inquiétée si elle n'a pas pris garde aux risques psychosociaux dans son entreprise. Ça va même très très loin, sachez qu'aujourd'hui, dans les organisations, pour éviter le burn-out, beaucoup d'entreprises commencent à déconnecter les serveurs au-delà d'une certaine heure pour éviter le phénomène que l'on connaît tous, à savoir de regarder son smartphone et de lire ses mails pratiquement 24 heures sur 24. Vous vous levez le matin, vous regardez vos mails, vous êtes en famille, à table, vous regardez vos mails et puis vous avez un collaborateur, un collègue qui fait l'excès de zèle et qui est encore au bureau à 21h ou 22h, ou un responsable, un manager qui vous envoie un mail et puis vous ne déconnectez pas. Hein, et ça, ça provoque dans beaucoup d'entreprises un phénomène de burn-out. Hein. Donc aujourd'hui, les entreprises, pour prévenir ce phénomène, font en sorte que tous les mails envoyés après 18h30, 19h ne partent pas, ne partent que le lendemain matin. Donc, ça évite comme ça un phénomène de sursaturation. Mais on voit quand même que déjà les deux sujets qu'on vient d'évoquer, il y a quand même déjà un vrai problème. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des personnes qui vont se lever très tôt pour prendre leur voiture, être dans le stress des embouteillages, pour se retrouver dans un open space, à essayer de se concentrer, après avoir passé une heure et demie dans les embouteillages, donc en arrivant stressés, donc ils vont déjà essayer de se calmer, ils vont essayer déjà de passer entre les murs pour ne pas être repérés comme quelqu'un qui arrive en retard, donc déjà un peu de sentiment de culpabilité, et puis elles vont essayer de se concentrer dans un open space où il y a beaucoup de monde, et finalement elles vont pas finir ce qu'elles avaient prévu de faire, parce qu'elles n'ont pas pu se concentrer, et généralement elles vont reprendre du travail pour le finir à la maison après avoir fait une heure de transport le soir. En matière de productivité et en termes de qualité de vie au travail, je pense qu'on peut faire bien mieux, puisqu'on va le voir après dans la notion de télétravail, nous sommes aujourd'hui avant tout des producteurs de données. Alors c'est vrai, tout n'est pas transformable en données, celui qui est opérateur sur une chaîne d'assemblage Airbus ou autre, dans une unité de production, on peut difficilement effectivement travailler à distance. Mais vous allez voir que beaucoup de métiers, de façon partielle, peuvent se pratiquer à distance. Parce que même dans une activité de production, moi je pense notamment à des personnes que je connais qui, 4 jours par semaine, sont dans le contrôle de chantier, font du contrôle de chantier, donc ils sont sur les chantiers, ils font de la gestion de chantier, mais un jour par semaine, ces personnes-là ont besoin d'être au calme pour faire du planning, faire le point avec leurs fournisseurs, faire des devis, donc faire du travail administratif. Et ce jour-là, ils n'ont pas forcément besoin de prendre leur voiture pour aller au bureau, alors qu'ils peuvent le faire ailleurs au calme. Donc on a ce phénomène de burn-out. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, de la notion d'open space, on est en train de voir arriver cette notion de multi-space, donc de espace pluriel. Donc les entreprises sont en train de se réorganiser, et elles le font d'autant plus volontiers que lorsque vous arrivez dans une entreprise ou une administration, quelle qu'elle soit, il faut savoir que vous n'avez que 60% de la surface des bureaux occupés. En permanence, vous avez 40% de la surface des bureaux qui ne sont pas occupés parce que tout simplement les personnes sont soit en congé, en RTT, en maladie, en déplacement, en réunion, à plusieurs en train de travailler sur un même sujet mais dans le même bureau. Et donc vous payez pour rien du mètre carré. Hein, ouais. Et pour le zoom d'avoir du mètre carré inoccupé en centre-ville, qui serait bien plus utile pour des logements sociaux ou pour faire des parcs, aujourd'hui on est en train de prendre conscience que ce mètre carré coûteux pourrait être imaginé avec des espaces qui ne soient pas des espaces dédiés. Mais là on est déjà en train de changer les mentalités et les organisations des entreprises où avant le bureau, la taille du bureau, la hauteur dans les étages avait son importance. Hein. Plus vous étiez haut dans l'étage, plus vous aviez effectivement une position hiérarchique importante dans l'entreprise. Et on était très attaché au mètre carré. On se comparait même les mètres carrés. Ah, mais lui, il a un petit bureau, il a été saqué, moi j'ai un grand bureau, donc je ne suis plus considéré donc, dans la hiérarchie de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, vous savez, ça fait plus de 10 ans que je travaille, mon bureau, il est là. Hein. Je n'ai plus de bureau véritablement. Je suis devenu un nomade et mon environnement, il est là où je me pose et là où je pose mon ordinateur. Ici, c'est mon bureau, hein, aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui de plus en plus dans une notion d'entreprise qui met en place des lieux pluriels. Alors, à la fois propices à la concentration, Donc des box, des bureaux individuels, parce qu'on a besoin de se mettre au calme pour finir un rapport, pour passer un coup de fil, pas déranger les collègues. Des lieux dits de collaboration. On va avoir cette notion de coworking, et vous allez voir qu'on a beaucoup de confusion pour ceux qui ont un peu déjà regardé la notion de tiers-lieu, de télétravail, d'espace de coworking. Donc ce sont des termes qu'on va aborder juste après. Et des lieux de ressourcement. Et je vais vous montrer quelques exemples, hein, quelques photos de zones qui ont été créées dans des campus. Alors ça vient effectivement des États-Unis, mais j'ai après des exemples qui sont plus français. Vous voyez, on a des petits box propices à des petites réunions, des lieux retour aux sources alors qu'on est en plein milieu d'un pôle urbain. On recrée la nature, donc des lieux qui sont effectivement propices à la créativité. Donc des espaces pluriels. Et vous avez là par exemple un exemple assez intéressant qui a fait la une de la presse, c'est une entreprise de Toulouse qui s'appelle Mécanoïdé. Lui, en matière de lieu de ressourcement, ils ont carrément mis des box de sieste. Non, ouais. Avec tout un protocole, donc pour ceux qui mangent le midi dans l'entreprise, où il y a tout un process de 20 minutes avec une petite musique, une lumière, et les personnes sont invitées à faire la sieste qui leur donne beaucoup plus de productivité dans l'après-midi. Ça leur évite de dormir devant leur écran. Alors, on a effectivement ces nouveaux espaces. On avait tout à l'heure cette problématique du déplacement. Pour vous dire qu'on est quand même souvent dans un éternel recommencement et qu'on est sur des cycles. Pour rapport à la problématique de rapprocher l'emploi de l'habitat, certaines entreprises vont très loin. Vous avez un projet, si vous allez sur internet, vous aurez un peu tout le détail, qui est le projet du PDG de Facebook. 10 000 salariés Facebook aujourd'hui. Donc imaginez, c'est un peu comme Airbus. Hein, donc 10 000 salariés qui viennent sur un campus travailler, donc là où se situe le siège social de Facebook. Aujourd'hui, le PDG de Facebook est en train d'imaginer de construire une ville. Une ville, c'est des centaines de milliards qu'il est en train d'imaginer investir, il est en train de lancer le projet. Il demande juste à la collectivité de lui faire le bout de route qui va relier sa ville à lui. Quand il dit sa ville à lui, c'est qu'on a tout dedans. On a des logements, on a des lieux pour s'amuser, des commerces, et c'est une ville qui sera destinée à accueillir ses 10 000 salariés. Donc on voit bien qu'on revient sur un modèle industriel où là, c'est pas un industriel en tant que usine, mais c'est un industriel de la donnée numérique, hein, qui ne connaît pas Facebook, qui imagine reloger ses collaborateurs au plus près du centre de production. Donc c'est extrémiste. Et là aussi, on a, par rapport à la problématique du logement, dernièrement, des salariés de Google qui expliquaient que, comme l'entreprise proposait toutes les infrastructures, restaurants, le midi, le soir, les douches et tout ce qu'il faut pour s'amuser, gymnase, cinéma, parce qu'effectivement, ils sont dans l'esprit campus. Mais eux, ils ont fait le calcul et aujourd'hui, ils ont construit, il y en a plusieurs qui l'ont fait, ils ont aménagé des vannes de 17, ça fait leur fait 14-15 mètres carrés pour effectivement vivre, et ça leur coûte bien moins cher que d'avoir un appartement où ils seront obligés de se lever très tôt pour faire la route jusqu'au siège de Google. Et pas pouvoir faire de sport, alors que là ils gagnent du temps, ils font du sport, mais là pour le coup ils dorment dans le parking, ils logent sur le parking de Google. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour dire qu'il y a l'extrême. Bon, là on est vraiment sur des solutions qui à mon sens sont jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, nous, pour présenter quand même un peu l'entreprise, parce que j'ai pas eu le temps encore de le faire, mais en fait nous, notre combat et notre réponse, elle est dans la mise en place de tiers-lieux. Alors, tout d'abord, une définition de ce qu'est un tiers-lieu. Donc, ce qu'est un tiers-lieu, donc, comme son nom le dit, c'est le troisième lieu qui n'est ni le bureau, ni la maison. La notion de télétravail qu'on va aborder est souvent liée dans l'esprit des gens au travail à la maison. Le télétravail est souvent aujourd'hui perçu comme celui qui va travailler à la maison. Et c'est vrai, il est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel des pratiques du télétravail se fait à la maison. Avec toutes les dérives qu'il y a de travailler à la maison, hein, avec les tentations et la suspicion, et c'est très tentant effectivement de faire autre chose que de travailler quand on est à la maison. On va le voir après. Dans tous les cas, nous, Relais d'entreprise, et le combat qu'on mène depuis maintenant plus de 3 ans avec l'expérimentation qui avait eu lieu à Rieuvolvestre, c'est de proposer un troisième lieu. Mais en fait, les troisièmes lieux, il y en a beaucoup. Il y a aujourd'hui 5 typologies de lieux pour travailler à distance. Alors beaucoup de lieux urbains, et notamment les business, ce qu'on appelle les business lounges. Les business lounges, c'est ce que vous allez retrouver dans les hôtels. Donc des lieux plutôt feutrés, plutôt aménagés pour des commerciaux, pour ceux qui sont de passage, notamment pour des rendez-vous d'affaires. On n'est pas dans le même combat, dans les mêmes enjeux que ce qu'on va évoquer tout au long de la soirée. On a les cafés Wi-Fi, ceux qui ont effectivement été amenés à bouger au niveau professionnel ont déjà utilisé, alors au départ c'était McDo. McDo a été les premiers à mettre en place la connexion Wi-Fi gratuite. Aujourd'hui la plupart des cafés, Starbucks et autres cafés de centre-ville ou un peu partout, proposent le Wi-Fi. Donc il n'est pas rare de voir quelqu'un sur une table avec son ordinateur en train de travailler. Donc c'est aujourd'hui effectivement très fréquent d'avoir comme là, vous voyez, 2-3 personnes qui travaillent avec le casque sur les oreilles et avec une capacité, la nouvelle génération, je ne suis pas très vieux, je ne suis pas non plus très jeune, mais effectivement la nouvelle génération aujourd'hui est capable de travailler n'importe où avec un casque sur la tête. On parlait tout à l'heure de concentration, ils sont capables de créer leur bulle de concentration. Donc ce qu'on appelle les cafés Wi-Fi. Alors, les espaces de coworking. C'est un terme qu'on a souvent entendu. Et souvent, on va confondre d'ailleurs le tiers-lieu, le télécentre, avec l'espace de coworking. Quand on le voit ici, la notion de coworking, et comme le nom l'indique en anglais dans le texte, c'est pour coworker, donc c'est pour travailler ensemble. Donc c'est un lieu qui a été pensé, imaginé, pour favoriser les échanges. Dans notamment une économie qui de plus en plus devient agile avec des acteurs qui sont des microstructures qui vont travailler en mode projet. Et on va le voir après dans les nouvelles organisations du travail. Mais dans tous les cas, ces lieux, qu'on appelle les lieux de coworking, sont très urbains, ils fleurissent. Il y en a beaucoup à Toulouse aujourd'hui. Vous avez notamment le plus connu et le plus ancien qui est la cantine. Ils ont souvent des noms comme ça, la cantine, la mutinerie. Donc c'est toujours des lieux un peu au côté décalé, un peu même déjanté, même en matière de mobilier, là c'est relativement soft, mais souvent ça va être de la récup, ça va être des caisses en bois, avec un aménagement déstructuré. On est vraiment dans une... et plutôt des publics assez jeunes qui fréquentent ce genre d'espace. Ce qui est beaucoup plus connu et très ancien sont les centres d'affaires, implantés en centre-ville, assez coûteux, mais plutôt destinés à domicilier des entreprises. Donc on est plutôt là dans l'hébergement d'entreprises que l'hébergement d'activités et d'actifs qui viennent y trouver le gîte et le couvert. Et enfin le télécentre et relais d'entreprise, ce que vous avez à Rieux-Volvestre, c'est un télécentre, un tiers-lieu, situé plutôt en zone rurale ou périurbaine, et ça a notamment la vocation de réduire les déplacements des salariés, mais aussi d'accueillir les entrepreneurs qui n'ont pas forcément besoin d'aller, encore un terme que j'ai utilisé, en pépinière d'entreprise, qui sont des lieux pour faire grandir les entreprises. Vous avez dans tous les stades, vous avez ce qu'on appelle les incubateurs, où on passe d'une idée, souvent en lien avec des universités ou des écoles, donc on prend des jeunes chercheurs, des jeunes diplômés, des porteurs de projets, on va incuber une idée pour en faire un projet de création d'entreprise, qu'on va ensuite mettre dans une pépinière, pour faire en sorte que la jeune pousse, la start-up, puisse effectivement se renforcer. Et là, il y a des conseillers, des consultants qui sont là pour accompagner cette start-up dans une pépinière, avec généralement un accompagnement pendant 2 ans. Et après, les jeunes start-up vont sortir de la pépinière pour aller soit dans un hôtel d'entreprise ou prendre des bureaux traditionnels. Ça, c'est le schéma classique. Mais vous avez un certain nombre d'activités, vous avez plus de 60% des entreprises qui se créent aujourd'hui qui ne sont pas accompagnés par des opérateurs de la création d'entreprise. Donc, moi le premier, c'est la 4e entreprise que je crée, je n'ai jamais été accompagné par une pépinière parce que je savais ce que je voulais faire et que je n'avais pas forcément besoin d'être dans une organisation où on va me dire des choses que je n'ai pas forcément besoin d'entendre. Mais j'ai plutôt cherché les consultants ou les conseils que je vais choisir et pas qu'on va m'imposer dans un lieu qui n'est pas forcément adapté. Donc ça, effectivement, ce sont les télécentres. Mais vous avez en fait cette notion de tiers-lieu et de lieu de travail vont être pluriels. Partout aujourd'hui, on va pouvoir travailler. Et c'est une vraie révolution. Vous allez avoir des lieux de travail dans les gares, les aéroports, les hôpitaux, parce qu'on est amené à attendre longtemps dans les hôpitaux, les centres commerciaux. Aujourd'hui, par exemple, on est consulté, contacté par un fournisseur de magasin, un magasin de fourniture d'articles de bureau. Quelqu'un qui vend des ramettes de papier, des stylos, et qui finalement s'est rendu compte que dans sa clientèle, il avait principalement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, mais aussi des étudiants. Et ils se sont dit, mais finalement, est-ce que notre lieu de vente ne pourrait pas devenir un lieu de vie, un lieu de travail? Et on pourrait même y créer, pourquoi pas, des animations. Donc on voit bien qu'un magasin devient un lieu où les gens vont pouvoir y travailler. Et en fait, la notion même de télétravail est vraiment galvaudée, parce que quand vous prenez votre smartphone le matin et vous regardez vos mails, vous êtes déjà en train de télétravailler, donc travailler à distance. Quand vous montez dans votre voiture avec votre kit main libre et que vous passez un appel à un collègue, vous êtes aussi en télétravail, même si c'est interdit, mais avec le main libre, on y arrive. Voilà, et après on va arriver sur son lieu habituel de travail, donc au bureau, faire une réunion avec ses collègues, et ensuite on va aller à un déplacement, et entre deux rendez-vous, on a une heure parce que le rendez-vous s'est décalé ou s'est annulé, et puis là il faut qu'on se pose. Donc on va aller dans un café wifi ou dans un tiers-lieu, et puis on va aller dans un espace public, bref, on va travailler de n'importe où, parce que aussi aujourd'hui avec un outil, on peut vraiment travailler de n'importe où. Et ça, c'est possible parce que, et c'est une étude de la Caisse des dépôts et conciliations qui l'a démontré, un métier sur deux aujourd'hui peut se pratiquer à distance. Nous sommes sur une économie de production de données. Quand on fait une photo, c'est une photo qui va vite être transférée par mail, et donc on va envoyer des données, et on pourra même demain imprimer des objets en impression numérique 3D. Vous avez eu une conférence qui était intéressante avec Gilles Azzaro, au travers d'une technologie qui est l'impression numérique 3D, on fait aussi des œuvres d'art. Mais avant tout, avant que ça devienne des œuvres d'art et des éléments effectivement tangibles, ce sont avant tout des données numériques qui ensuite sont transmises à une imprimante qui va produire un objet. Donc on n'est plus forcément obligé de se rendre dans un lieu pour travailler. Et quand on explique au DRH, au manager, que le présentiel d'un collaborateur sur site n'est pas un gage de productivité, bon, bien sûr, il veut bien nous entendre et nous, on lui apporte quelques chiffres. On lui apporte le chiffre sur les sites les plus consultés par des collaborateurs, les sites internet les plus consultés par les collaborateurs qui n'ont absolument rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Les pics de commandes, c'est intéressant ce que j'en discutais avec la personne qui gère les Leclerc Drive. Vous savez, là, on fait ses courses. Les pics de commandes sur Leclerc Drive, c'est entre 9h et 10h. Donc je pense que les personnes qui viennent de passer une heure dans les embouteillages pour se déstresser arrivent et passent leurs commandes sur le CRER pour les récupérer le soir entre deux embouteillages. Donc on voit bien effectivement que le présentiel n'est pas un gage de productivité. Bien au contraire, on a aujourd'hui suffisamment d'études qui montrent qu'une personne qui arrive moins stressée parce qu'on lui a autorisé à faire du télétravail est beaucoup plus productive et beaucoup plus performante. Et surtout, on a le télétravail qui est enfin encadré depuis 2012 dans le Code du travail, dans la loi de la loi Warsmann du mois de mars et mois d'avril 2012. Cette loi Warsmann, elle dit que un salarié est autorisé à travailler en dehors de son lieu habituel de travail à partir du moment où c'est un double volontariat, enfin c'est un double choix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer un employeur d'être en télétravail et un employeur ne peut pas imposer à son salarié d'être en mode télétravail, que le nombre de jours de télétravail dans la semaine doit être fixé. Donc on va dire, par exemple, une personne est autorisée le lundi et le mercredi à ne pas venir en entreprise. Donc tout ça, c'est maintenant encadré. Il y a un point important, et là on évoque les bienfaits du télétravail. Mais il y a quand même quelques signaux qu'il faut regarder de très près. Il y en a un notamment qui est très récent, qui date du mois dernier. Il vient d'Espagne, d'un collaborateur de Tyco, qui a fait reconnaître auprès de la Cour européenne du droit du travail, puisqu'il avait 1h30 pour aller voir son premier client tous les jours. Donc il avait une zone de couverture de sa clientèle et son premier client se situe à 1h30 de son domicile. Et il a fait reconnaître le temps de trajet entre son domicile et son premier client comme temps de travail. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de s'approprier ce sujet-là et est en train de se dire, mais pourquoi lui, à qui on autorise le fait de décompter son temps à partir du moment où il quitte son domicile, pourquoi moi qui quitte Rieux-Volvestre et qui mets plus d'une heure pour rejoindre Toulouse, est-ce que cette heure-là ne pourrait pas être décomptée comme heure de travail? Donc c'est une bombe, hein. C'est une bombe, les DRH ont effectivement beaucoup d'inquiétudes autour de cela, parce que si, comme c'est la Cour européenne qui prévaut sur le droit du travail français, il y a une espèce de d'épée de Damoclès qui fait qu'à un moment ou à un autre, le temps de trajet pourra être considéré comme du temps de travail. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que même l'accident qui surviendrait pendant le trajet serait considéré comme un accident de travail.
Hein.
C'est déjà le cas. Mais c'est, je crois qu'il y a... Voilà, c'est ça. Il y a une variante, mais qui aurait de l'impact. Voilà, sur le trajet habituel. Hein. Voilà, absolument. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre comme effectivement une notion. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a suffisamment de recours, de recul, de retour et de recul pour savoir qu'aujourd'hui, le télétravail est plébiscité par les salariés. Si on fait une enquête auprès des salariés, vous avez plus de 75%, plus de 95% chez Airbus, ce qui vient d'en faire une enquête, qui ont fait une expérimentation, qui ont envie effectivement de travailler à distance au moins un jour par semaine, puisque aujourd'hui, 51, c'est le nombre de jours perdus dans les transports par an. Ils sont plus ou moins importants en fonction des saturations des rocades. Les villes les plus embouteillées en France, hein, vous avez Marseille, vous avez Paris, vous avez Toulouse, vous avez Bordeaux, et on est aujourd'hui à plus d'une heure de moyenne de trajet, et sans compter ce qu'on va voir après, le coût, puisque il faut savoir qu'un kilomètre parcouru, pour celui qui sait compter, quand je dis pour celui qui sait compter, c'est celui qui ne compte pas uniquement le coût du carburant, et qui compte aussi l'usure de son véhicule, l'assurance, le péage, enfin bref, tout ce qu'il faut pour aller se rendre sur son lieu de travail, ça revient à 50 centimes du kilomètre. Si vous allez sur le site de l'ADEME, l'Agence pour l'économie d'énergie, enfin, dans tous les cas pour tout ce qui touche aux économies d'énergie, vous avez une calculette, hein, vous pouvez mettre le cylindre de votre véhicule et vous aurez tout de suite le coût de votre kilomètre parcouru. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, celui qui habite Rieux-Volvestre, on est à 40 km de Toulouse, 45, ça lui coûte 45 euros par jour pour aller travailler. 900 euros par mois. Donc c'est pas neutre. Et c'est 900 euros de pouvoir d'achat. C'est 900 euros net. Sans compter les frais de garde. Parce que effectivement, l'heure passée dans les embouteillages, je pense en là, il faut faire garder les enfants. Hein, et pareil, l'heure du soir. On s'est entre guillemets amusé, c'était il y a 2-3 mois, quand beaucoup de municipalités ont commencé à mettre des pénalités aux parents qui arrivaient trop tard pour aller chercher les enfants à l'école ou à la crèche, puisque certaines municipalités ont commencé à pratiquer une pénalité de 10 euros par retard. Donc double peine, vous êtes coincé dans les embouteillages, ça vous coûte cher pour aller travailler dans la métropole la plus proche, et en plus vous arrivez en retard stressé, et en plus vous devez payer une amende. Enfin, ça fait un peu lourd. Donc, et on va le voir que ça a une incidence quand même après sur les organisations du travail. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est un levier de performance RH et il faut absolument que les managers se modernisent et que les salariés n'aient pas peur de demander une organisation qui passe par le télétravail. C'est une baisse des arrêts maladie, c'est un gain de productivité, c'est une réduction des turnovers, c'est un levier d'attractivité des entreprises pour les étudiants qui aujourd'hui effectivement attendent une flexibilité de leur lieu de travail et pas forcément un bureau avec une hauteur dans les étages. Et c'est un levier d'optimisation immobilière. Et d'ailleurs, des opérateurs immobiliers ont compris, Bouygues Immobilier, pour le citer, a mis en place un concept qui s'appelle Nextdoor. Nextdoor, c'est quoi? Mais c'est la traduction de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est quand ils vont voir une entreprise qui a un besoin d'immobilier pour un nouveau siège social, une entreprise qui a besoin de 1000 m² pour ses collaborateurs, ils vont les voir en disant, mais nous, on va être 30% moins cher que Vinci ou n'importe quel autre opérateur immobilier, puisqu'on va vous construire finalement que 700 m² de bureaux en centre-ville, et on va vous gérer 300 m² déportés pour des collaborateurs que vous autoriserez à faire, donc à qui vous avez autorisé de faire du télétravail. Ça vous coûtera moins cher d'avoir 300 m² déportés que d'avoir 1000 m² en centre-ville des métropoles, puisque le mètre carré est très cher, puisque vous aurez en plus moins de places de parking, et en plus vous aurez des collaborateurs qui seront plus performants. Donc aujourd'hui, on commence à avoir ce genre d'organisation. Vous avez un bel exemple à Toulouse qui s'appelle Berger Levrault. Hein, Berger Levrault qui pratique le télétravail, c'est une entreprise qui fait de l'édition de logiciels pour les collectivités territoriales, pour les mairies, hein, tout ce qui est logiciel, cadastre et autres. Et quand ils ont construit leur nouveau siège à La Belge, ont réfléchi déjà à mettre ce siège au barycentre de la localisation de leurs salariés, pour que ça soit le plus proche possible de l'ensemble de leurs salariés. Et ceux qui étaient plus éloignés, ils leur ont proposé de faire du télétravail et ils ont surtout rationalisé leurs besoins de bureaux en fonction des bureaux qui, justement, pouvaient être partagés par plusieurs collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment pertinent en matière d'organisation. Alors, quels sont les freins à la mise en place du télétravail ? C'est essentiellement l'isolement, si le télétravail est total. Alors ça existe, on a des exemples de télétravail qui se font à 100%, mais c'est surtout aussi la suspicion du manager, hein, qui se dit que si la personne télétravaille, bah, elle va faire autre chose. Et on a là, typiquement une photo d'une personne qui télétravaille, les fameux scoops, enfin les fameux clichés sur les télétravailleuses, avec effectivement les enfants à côté. D'ailleurs, Airbus, dans son expérimentation l'année dernière sur le télétravail, s'est rendu compte effectivement que les pics de demande pour le télétravail, c'était le mercredi, parce qu'il y avait une problématique de garde. Il a dit non, on n'a rien compris, parce que si c'est pour garder ses enfants, c'est un 4/5 qu'il faut, mais ce n'est pas du télétravail. Le télétravail n'est pas là pour résoudre des problématiques de garde. Donc, et c'est surtout cette notion entre confusion entre vie privée et vie professionnelle auquel il faut faire très attention. Hein, la maison, c'est pour la famille, c'est voilà, pour se ressourcer, pour être ensemble. Et le bureau, c'est le bureau. Et souvent, on a besoin quand même de se dire « je vais au travail ». C'est très difficile d'être dans un état « je ne suis pas au travail, je suis au travail ». Donc, c'est compliqué. Dans sa tête, à un moment ou à un autre, il faut avoir une très forte discipline. Certains y arrivent, mais beaucoup de ceux qui ont pratiqué le télétravail à la maison ont vite compris cette notion de ce qu'on appelle le télétravail pyjama, le travail pyjama. Hein. C'est-à-dire qu'on est à la fois au travail, mais on est aussi en voilà, plus ou moins en pyjama, on ne se prépare pas, on ne se maquille pas, donc on n'a pas forcément effectivement cette notion qu'on recherche. Et quoi qu'il en soit, ce que nous met surtout en avant, c'est cette notion de télétravail partiel, parce qu'il ne faut pas casser le lien avec les collègues, avec vraiment les autres personnes de l'entreprise, et puis surtout une personne qui n'est pas présente en entreprise peut à un moment ou à un autre se voir on peut très bien ne pas lui confier une information importante ou un travail important, donc il y a un risque effectivement de marginalisation. Et à l'époque, les partenaires sociaux étaient assez opposés à la notion de télétravail. Alors c'était un peu pour cette raison là c'était aussi parce qu'ils ne pouvaient plus distribuer les tracts à la cantine, donc c'était pour ça qu'ils ne voulaient pas que les personnes ne soient pas présentes sur le site. Comme aujourd'hui les tracts, ils les envoient par mail. Ils se disent bon, que les personnes soient à la cantine ou qu'ils ne soient pas, c'est pas gênant. Alors, on a deux choses qui se préparent en ce moment, qui se confirment d'ailleurs de plus en plus, et qui sont complètement liées. On a cette notion de télétravail qu'on vient d'évoquer pour résoudre les problématiques de mobilité, pour résoudre la problématique de stress, parce que pour ceux qui ont fait le calcul et qui ont fait le choix de vivre dans les territoires périurbains, les territoires ruraux, plus de 90% de la population française vit sous l'influence d'une métropole aujourd'hui. Mais nous sommes avant tout des territoires ruraux. Et c'est vrai que lorsqu'on vient chercher un habitat, alors il y a ceux qui sont issus de ces territoires et qui ont moins d'autres parce que l'économie a changé, on est moins sur une économie tournée sur l'agriculture ou sur l'industrie, mais plus une économie qui est tournée vers le tertiaire et donc on va vers les métropoles où se situe la concentration des sièges et des entreprises. Mais en fait, on vient chercher et on voit aujourd'hui les primo-accédants à la propriété qui arrivent sur nos territoires à 35-40 km de Toulouse. Mais en fait, ce pouvoir d'achat qu'on vient chercher à 35-40 km de Toulouse avec un immobilier attractif, on se rend compte qu'on le perd avec le coût des déplacements pendulaires. Parce que si vous êtes deux et que vous ne pouvez pas prendre le même véhicule pour aller à Toulouse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 900 euros par mois, et ça se transforme en 1800 euros par mois pour un foyer. Donc 1800 euros par mois, ça peut vous permettre déjà d'avoir un certain écart et pouvoir éventuellement vous reloger au plus proche de Toulouse, même si l'immobilier et les plus coûteux. Et c'est pour ça qu'on voit certaines personnes vendre leur maison sur ce territoire-là, avec tout l'effet boule de neige que ça engendre, à savoir fermeture des classes, fermeture de certains commerces. et la désertification des campagnes. Quand on dit, nous, souvent, dans la présentation de Relais Entreprises, qu'on est un acteur au service du développement économique des territoires, c'est parce qu'aujourd'hui, le télétravail, au-delà des bienfaits en matière de qualité de vie pour ceux qui gagnent du temps le matin ou le soir, qui sont moins stressés, et en matière de pouvoir d'achat que ça leur donne, mais ça aussi contribue au développement économique des territoires. On en parlera après. Mais ceci dit, vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes qui, soit de façon subie, parce qu'elles ont été licenciées, soit parce qu'elles l'ont souhaité, tout simplement parce qu'elles n'arrivaient plus à concilier vie privée et vie professionnelle, parce que cette notion de stress et le coût lié à leur déplacement pendulaire les a amenés à faire les calculs et ils se sont dit « mais je travaille pour la gloire, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer à me fatiguer pour finalement gagner 300, 400, 500 euros résiduels chaque mois ?» Donc décide de ce qu'on appelle se lancer dans le solo entrepreneuriat, c'est-à-dire se mettre à leur compte. On a dépassé la barre du million d'auto-entrepreneurs en 2014, en 2013. C'est énorme. Alors certains y verront une forme de précarité, en se disant mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail que les gens se mettent en tant qu'entrepreneurs. Mais dites-vous que c'est une vraie révolution dans les organisations des sociétés aujourd'hui. On travaille ce qu'on appelle en mode agile, en entreprise étendue. De plus en plus d'entreprises externalisent des fonctions et ces fonctions deviennent autant d'entrepreneurs qui vont travailler dans un écosystème ouvert où souvent même leurs clients étaient leur ancien employeur. Donc ça c'est des notions vers le self-emploi. Et c'était Laurence Parisot qui s'était fait un peu huer quand même quand elle avait dit, vous savez, la vie est précaire, l'amour est précaire, pourquoi l'emploi ne le serait-il pas ? Étudier 20 ans pour bosser 40 ans dans la même boîte, c'est un schéma qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un CDI pour être sûr d'avoir son activité professionnelle ? C'est pas gagné. Aujourd'hui, vaut mieux avoir une bonne maîtrise de sa dynamique entrepreneuriale qu'un contrat dit à durée indéterminée dont on sait pertinemment qu'il peut être cassé en 3 mois dans le cadre d'un plan social, d'une rupture conventionnelle, et que cette notion de flexibilité elle est de plus en plus importante et souhaitée, souhaitable, j'en sais rien, mais dans tous les cas, elle est aujourd'hui établie. C'est un fait. Alors, les bénéfices du télétravail, je l'ai évoqué un peu déjà tout au long de cette première partie, c'est que, et c'est pas neutre, parce que souvent je dis, mais moi j'ai rien inventé. Quand on a inventé le concept de relais entreprise, j'ai pas inventé le bureau meublé. Le bureau meublé connecté à Internet, c'est ce qui permet justement de faire du télétravail, parce qu'on offre une alternative au télétravail à domicile. Mais je dis souvent, trouvez-moi aujourd'hui une innovation avec... grand renfort d'ingénieurs, de technologies avec des puces électroniques de partout qui permettent de donner du pouvoir d'achat. Un kilomètre non effectué est un kilomètre qui coûte pas cher, donc 50 centimes par kilomètre non effectué. On redonne 40 euros par journée de télétravail. Imaginons qu'une personne soit autorisée à faire un jour de télétravail par semaine, vous lui en donnez 160 euros de pouvoir d'achat. Je me défie même les syndicats de négocier une augmentation qui amènera 160 euros net de pouvoir d'achat supplémentaire. Ce pouvoir d'achat, il va permettre aussi de contribuer aux dépenses sur le territoire, parce que le midi, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va acheter un steak au boucher du coin, acheter une baguette, elle va faire ses courses en local et pas ses courses chez Leclerc de Roc quand elle va rentrer le soir sur Rieux. Donc on va soutenir l'économie locale, donc ça va créer des emplois supplémentaires. C'est plus de qualité de vie. Pour faire quoi ? Pour dormir plus, pour s'occuper des enfants, les emmener ne serait-ce qu'une fois par semaine à l'école, c'est discuter avec la maîtresse, c'est peut-être prévenir un échec scolaire, c'est passer du temps à faire les devoirs, c'est quoi ? C'est faire du sport, c'est courir, c'est s'occuper de soi, et c'est aussi plus de performance, donc l'entreprise aussi gagnante, c'est pas que du bénéfice pour le salarié, donc c'est plus de performance, donc une meilleure productivité. Et c'est aussi plus de développement durable. On est à la veille de la COP21. On est tous en train de réfléchir sur les actions qui peuvent permettre de réduire les émissions de CO2. On parle du scandale effectivement des émissions de particules, Volkswagen et autres, tous les trucs et les tromperies qu'on peut avoir pour échapper à la législation. Mais la législation va se durcir, elle va se durcir auprès des entreprises. Et si les entreprises aujourd'hui mettent en place ce qu'on appelle des PDE, des plans de déplacement entreprise, ou des PDIE, des plans de déplacement inter-entreprise, c'est que justement aussi, elles commencent à être impactées par rapport à cette problématique. Il y a 2 mois, a été voté l'indemnité vélo pour inciter les collaborateurs à prendre le vélo pour se rendre à leur entreprise, donc avec une indemnité que verse l'entreprise à un collaborateur qui vient en vélo. Alors ça, vous pouvez le faire quand vous habitez aller à 3, 4, 5 km. Enfin, je vous mets quand même au défi d'aller à Toulouse en vélo tous les jours. Enfin, ça, c'est bien gentil aussi, mais c'est un peu comme la circulation alternée. Je ne vais pas faire de politique, et il y a sûrement des grands hommes politiques, des grandes femmes politiques à la tête de certains ministères, mais quand j'entends effectivement la notion de circulation alternée, et notamment qu'on va rendre pratiquement systématique dès que les pics de pollution seront atteints, donc on va avoir pratiquement tous les mois des circulations alternées, qu'est-ce qui va se passer? Exactement ce qui s'est passé à Athènes, Athènes étant une ville très polluée. La plupart des foyers ont 2 véhicules, un véhicule pair, un véhicule impair. Et le véhicule impair ou pair est beaucoup plus polluant que celui qu'ils pourraient prendre tous les jours. Parce qu'ils ont acheté un véhicule pourri pour effectivement rouler tous les jours. Donc voilà, enfin, on va contourner le problème. Et sauf qu'on sait quand même, à grand renfort de policiers, imposer la circulation pair et la circulation impair. Alors qu'il serait beaucoup plus facile de dire à toutes les entreprises, vous devez avoir 5% de vos collaborateurs en mode télétravail. Aujourd'hui, le télétravail ne représente que 10 à 12% des actifs. Alors qu'il est à plus de 35% dans les pays scandinaves. Hein, on est très très en retard dans tous ces pays où justement la pratique du vélo, la notion de développement durable et surtout la notion de management était bien plus évoluée. Et ça permet aussi, ces lieux, ce télétravail aussi, de développer l'entrepreneuriat parce que les tiers-lieux sont propices à accueillir des entrepreneurs. Et voilà, les relais entreprises, donc cette initiative qui a vu le jour à Rieux-Volvestre en 2012, suite à un constat qui était celui du monsieur qui était dans sa voiture et qui pestait un jeudi matin en 2010, et c'était ce jeune homme, c'était moi, qui faisait sa crise de la quarantaine et qui s'est dit à un moment ou à un autre, c'est pas possible, je vais pas faire ça tous les jours, pour envoyer des mails et passer des coups de fil, et il y avait ce terrain qui était disponible en face de la crèche intercommunale de Rieux-Volvestre, et je voyais tous ces parents déposer leurs enfants à 6h30, parce que j'habite tout près, et je me suis dit, mais s'il y a bien un lieu où il faut créer un espace pour accueillir des télétravailleurs et faire une alternative au télétravail à domicile, c'est bien cet endroit-là, pas forcément en zone industrielle, au plus près de l'habitation, plus près du cœur de l'habitation. Et voilà, et ce lieu, pour ceux qui le connaissent, qui sont passés de devant, ben, ça ressemble à une maison, parce qu'il y avait un cahier des charges. Il fallait que ça ressemble à une maison pour pas qu'on ait l'impression d'aller au travail, mais qu'on ait l'impression malgré tout d'y être. Et donc c'est un projet qui est une initiative 100% privée, où j'ai rien demandé à personne, donc, et avec 10 bureaux meublés, une salle de réunion, un petit espace dit de coworking, où nous faisons assez régulièrement des réunions, parce qu'en même temps que je crée ce lieu, et c'est vrai pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai en même temps impulsé la dynamique du club des entrepreneurs du Volvestre, qui est devenu après le club des entrepreneurs du sud toulousain. Nous avons notre trésor, secrétaire donc, dans la salle, Georges. Donc voilà, un club qui réunit une soixantaine d'adhérents et qui est l'illustration de ces dynamiques entrepreneuriales que l'on a sur nos territoires et qui ne se voient pas forcément. Et justement, parce que ça ne se voit pas, j'ai souhaité qu'il y ait une dynamique d'association pour fédérer tous ceux qui sont souvent même isolés, des entrepreneurs qui sont assez seuls et qui vont régulièrement se réunir tous les mois dans le cadre d'une plénière et qui organisent des événements en faveur du territoire. Comme la semaine prochaine, nous organisons le Forum de l'emploi et des talents pour permettre à des demandeurs d'emploi de rencontrer des entreprises qui recrutent et contribuer au fait qu'effectivement ces personnes retrouvent du travail sur le territoire. Le combat, que ce soit Relais Entreprises ou le Club des Entrepreneurs, c'est surtout de faire en sorte que notre bassin de vie devienne un bassin d'emploi, que nous ne soyons pas uniquement dortoirs. Hein. On parlait de bon sens paysan. Je suis originaire d'un petit village ardennais de 500 habitants. Mes grands-parents étaient agriculteurs et ouvriers de côté de ma mère. Et je pense effectivement qu'on a une chance aujourd'hui au niveau de la ruralité, au niveau de la qualité de vie que l'on peut avoir sur nos territoires. On ne va pas opposer la métropole avec le territoire rural, mais aujourd'hui, si vous lisez un peu tout ce qui se passe sur la problématique de la ruralité, on commence à prendre conscience que notre richesse, par rapport à justement notre tissu associatif, à cette notion de bienveillance qui existe sur nos territoires, va nous permettre justement de retrouver une certaine attractivité, sous réserve bien sûr qu'on ait une infrastructure qui soit au moins égale à ce qu'on peut retrouver dans les métropoles. Et aujourd'hui, effectivement, ce concept, qui au départ devait s'arrêter à ce simple lieu à Rieux-Volvès, est devenu un réseau, puisqu'on m'a demandé d'en ouvrir un peu partout, à la fois, mais bien sûr, sur la région, à Montauban, mais également autour de Bordeaux, dans les Ardennes, et plus d'une quinzaine, hier j'étais en Corse, puisqu'on m'a demandé d'en ouvrir un au sud de Bastia. Donc, et Relais Entreprises a une ambition nationale, avec un objectif d'avoir plus de 200... relais d'entreprise, donc 200 espaces, un peu partout autour des métropoles. On a eu l'occasion de rencontrer lors d'un salon dans le Cantal, fin août, Axel Lemaire, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique, qui a fait un discours qui va vraiment dans notre sens, puisque clairement, elle a dit « c'est bien, on s'est occupé du développement du numérique partout et pour tout, pour tous. La fibre, c'est très bien, il faut, et on en est loin, nous, ici, sur notre territoire. On n'a pas encore une connexion internet qui nous permet effectivement de faire des miracles, d'où l'intérêt aussi de la mutualiser, puisque au sein du relais d'entreprise, on a mis en place une solution avec un opérateur privé qui s'appelle Alsatis, qui nous permet aujourd'hui d'avoir du 4 mégas symétrique, donc on peut faire de la visio, on peut faire tout ce que l'on veut. Mais quoi qu'il en soit, elle, ce qu'elle dit, c'est très très bien de faire la diffusion de la fibre un peu partout, mais il est grand temps de s'occuper des usages du numérique. Dans les usages du numérique, le télétravail dans les tiers-lieux va contribuer au rééquilibrage des territoires et va permettre aux territoires ruraux de ne pas être uniquement des territoires dortoirs ou des territoires qui se vident parce qu'effectivement on n'aura pas d'activité. Hein, rapprocher l'emploi de l'habitat, c'est pas uniquement construire des zones d'activité et des zones industrielles pour faire venir des entreprises. Hein, on peut aujourd'hui rapprocher l'emploi de l'habitat en, bien sûr, en soutenant l'économie et l'entrepreneuriat local, en favorisant la dynamique entrepreneuriale, mais aussi en repensant complètement les organisations et en travaillant à distance, parce que le principal, c'est de pouvoir ensuite consommer sur place et de pouvoir effectivement contribuer au développement du territoire. Alors, pour finir, on est une initiative privée, mais on est quand même aujourd'hui plutôt soutenu par à la fois l'ADEME et EDF, une rivière, un territoire, par rapport aussi à son engagement sur les territoires proche des Pyrénées. Et enfin, on est une initiative reconnue par l'association Bleu Blanc Zèbre, qui est une association apolitique qui a été fondée par Alexandre Jardin, qui identifie et met en avant les initiatives citoyennes. Et lorsqu'on a postulé pour être zèbre, c'est comme ça qu'on est des zébreux, en fait, on a dit une chose, c'est que c'est le principe des zèbres, c'est une minute, une heure, un jour. Et on demande aux citoyens, en une heure, de faire le relevé des actions qu'ils pourraient faire à distance. Des actions qu'ils pourraient faire sans être obligés de se déplacer. Et c'est vrai qu'on a un réflexe, nous, en milieu rural, de prendre sa voiture pour un oui ou pour un non. Effectivement, à un moment ou à un autre, il faut changer. Moi-même, le premier, quand souvent j'ai des rendez-vous professionnels, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer pour aller voir la personne et lui dire ce que j'ai à lui dire? Est-ce que je ne peux pas le faire en visioconférence, au téléphone? Est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de se déplacer? Donc ça, c'est en une minute. En une heure, de convaincre son manager de l'autoriser à travailler à distance. Et puis en un jour, d'essayer de convaincre aussi les acteurs du territoire, les élus, les collectivités territoriales, de la pertinence de mettre en place un tiers-lieu, donc un relais d'entreprise sur son territoire. Le gros avantage qu'il y a ici au niveau des élus du territoire, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin d'être sollicités, puisque moi je l'ai fait sans leur en parler. Donc voilà effectivement pour présenter à la fois les nouvelles organisations du travail, on voit bien cette notion de télétravail qui répond aux enjeux de mobilité, et avec les nouveaux lieux de travail et surtout la dynamique qui est en train de s'enclencher où progressivement on bascule de contrats dits en durée indéterminée avec une approche de salarié vers de plus en plus d'entrepreneuriat qui ont besoin d'un lieu aussi pour se fédérer et d'une dynamique associative comme celle du club des entrepreneurs. Voilà, et je vais maintenant répondre à vos questions si vous avez effectivement des questions.
Merci. Merci Dominique Valentin. Nous donnons 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure, pour des questions. Et ensuite, nous passerons à table, c'est-à-dire une auberge espagnole qui vous sera offerte dans la salle d'à côté. Première question.
Le deuxième micro,
quel est l'intérêt d'établir un réseau justement de plusieurs relais entre la Corse et ici? Quel est le lien? Est-ce que c'est la nature de l'activité?
Le réseau a un double intérêt. Le réseau a un premier intérêt qui est un intérêt économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, relais d'entreprise, on est en train de mutualiser un certain nombre d'efforts, notamment de communication, d'outils. C'est aussi des retours d'expérience pour permettre aux gestionnaires des différents tiers-lieux, des différents espaces de travail, de pouvoir partager effectivement toutes les conditions clés de la réussite. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui fleurissent un peu partout en France, soit portées par des collectivités territoriales, soit portées par des privés. Aujourd'hui, nous sommes le seul réseau enclenché sur notre positionnement périurbain et rural. Vous avez des initiatives portées par des conseils départementaux ou des initiatives portées par des associations. On a encore beaucoup de pédagogie parce qu'on mélange un peu tout. On a souvent même des infrastructures qui sont hybrides. On fait une maison de service pour accueillir une mission d'initiative, une forme de plateforme d'initiative pour accueillir les personnes en insertion. Donc on essaye d'avoir des lieux qui soient des lieux pluriels, et c'est peut-être très bien, ou pour la formation, hein, des lieux de formation à distance, ou des formations... donc ça c'est un premier point pour mutualiser des actions, mais c'est surtout un point important. On parlait tout à l'heure des DRH et des entreprises de la métropole, notamment pour finir de les convaincre d'autoriser leurs salariés à faire du télétravail. Et nous, on est en train de le faire. Je suis en contact avec Airbus, avec Thales. Sauf que quand je vais les voir avec uniquement mon relais d'entreprise de Brieuc-Volvest, déjà, si je devais me payer, donc si je devais payer un commercial pour faire cette démarche-là, sachant qu'il y a, allez, maintenant plus qu'un bureau disponible au sein du relais d'entreprise de Brieuc-Volvest, au mieux du mieux, je vais faire une action commerciale qui va me ramener, en termes de chiffre d'affaires, rien. Donc, je ne le fais pas, parce que économiquement, c'est pas rentable. Et en plus, je l'ai testé, et M. Airbus, il me dit quoi? C'est bien gentil, pour les salariés qui habitent au sud de Toulouse, c'est super, mais qu'est-ce que je dis à ceux qui habitent au nord, et qu'est-ce que je dis à ceux qui habitent à l'est? Revenez me voir quand vous aurez une offre qui va concerner l'ensemble de mes salariés. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux façons de le voir. Soit on fait en sorte que tous les tiers-lieux se fédèrent et se mettent d'accord pour mener des actions commerciales auprès des entreprises de la métropole. Il y a des démarches en cours, la région avec Madeli est en train d'y réfléchir, mais on a essayé de mélanger des choux avec des carottes, on a essayé de mélanger les territoires, des espaces de coworking de centre-ville avec des tiers-lieux périurbains, et ça ne marche pas, parce que ce n'est pas la même façon de fonctionner, ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même gouvernance. Donc nous, dans cette dynamique-là, mais surtout on se dit, en bon sens paysan, ok, on va aussi avancer par nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de tiers-lieux, de lieux portés par des collectivités ou des privés qui se disent « Mais monsieur Valentin, votre concept de relais d'entreprise et votre réseau de relais d'entreprise, nous, ça nous va bien, ça nous parle. Les éléments de discours, les supports de communication, vous les avez réfléchis, vous avez pensé, ça me fait gagner du temps. Et en plus, ça va me coûter beaucoup moins cher que de le faire moi-même et je serai beaucoup plus visible. » C'est exactement comme un hôtel de province, l'hôtel de la gare, l'hôtel du Volvest, qu'importe, qui se décide un jour de devenir interhôtel, de rejoindre le réseau interhôtel. Il garde son identité en tant qu'hôtel du Golvest, mais il va bénéficier de la visibilité d'une enseigne pour pouvoir capter plus facilement une clientèle et surtout s'affranchir de devoir repenser, refaire ce que d'autres ont déjà fait en matière de communication. Mais en fait, il y a trois niveaux de commercialisation d'un tiers-lieu. Il y a le niveau de proximité. Et ça, le tiers-lieu, il peut rester indépendant, il n'a besoin de personne, hormis peut-être de conseils pour effectivement formaliser une offre. Et là, il va la diffuser au travers la boulangerie, la mairie, tous les supports qu'on peut avoir quand on fait une manifestation, comme l'a fait la pub en vol avec des affiches. Alors, c'est ce qu'on a fait nous aussi au niveau relais d'entreprise du Volvest, où régulièrement on fait de la communication. On a fait dernièrement au Trail Gaulois, puisque je cours aussi. Et à un moment donné, on a distribué des tracts pour tous ceux qui étaient venus faire le trail en disant mais c'est bien de venir courir en Volvest, mais si vous veniez aussi travailler en Volvest, et plutôt que de passer une heure dans les embouteillages, passez une heure à vous entraîner. Donc c'est peut-être un peu moins mauvais au niveau du chrono. Ça, c'est le niveau local. Ensuite, vous avez le niveau national. Et c'est exactement comme pour les hôtels. Quand vous cherchez un hôtel, vous avez trois solutions. Soit vous connaissez l'hôtel, ou quelqu'un vous l'appelez, vous dites tiens, je viendrai dormir à tel jour, je me réserve la même chambre que d'habitude, merci, allez à mardi prochain. Ok, on raccroche, on n'a pas besoin de donner sa carte bleue, on est connu, on y va. Ensuite, vous aimez bien un style d'établissement, vous aimez bien être dans un Ibis ou un qu'importe. Donc vous allez sur le site de réservation Ibis, vous faites Ibis Toulouse, vous trouvez les Ibis Toulouse et vous allez dans un Ibis. Et après, quand notamment vous partez en vacances, vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'avez pas d'idée, vous ne voulez surtout pas aller dans un Ibis, vous voulez un peu découvrir un hôtel un peu de charme, et là vous allez sur booking.com. Hein, ou hotel.com. Donc vous allez sur une plateforme de réservation, et là aussi dans les tiers-lieux, ça existe. Ça s'appelle Néonomad. Aujourd'hui, je peux mon smartphone, mais vous avez une application où vous êtes géolocalisé, parce que maintenant vous êtes systématiquement géolocalisé au niveau de votre smartphone, et avec votre application, vous pouvez trouver le lieu le plus proche où vous pouvez travailler, et avec un clic, vous pouvez réserver. Et ça, c'est valable pour le nomadisme, pour ceux qui sont en transit, un commercial. Il est sur une zone et à un moment ou à un autre, on lui dit bah, ton rendez-vous que tu avais demain matin, il est annulé. Ah, mais moi, j'en ai un demain après-midi, donc je suis sur Toulouse, qu'est-ce que je vais faire demain matin? Donc, deux solutions, soit il va travailler toute la matinée dans sa chambre d'hôtel. Et alors, déjà que c'est déprimant d'être en déplacement, mais travailler dans une chambre d'hôtel, pour ceux qui l'ont fait, moi j'ai fait en nombreuses années, c'est une horreur. Vous avez une petite table de coincée entre le lit et la douche, c'est même pas possible. Donc vous avez, au moins d'autres, la possibilité de travailler dans un lieu où vous allez rencontrer du monde, vous allez avoir une imprimante, vous allez avoir une connexion Wi-Fi qui ressemble à une connexion Wi-Fi, et si en plus vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui se passait souvent dans les campagnes, et d'ailleurs on l'a fait au départ quand le relais d'entreprise n'existait pas, on se voyait dans les cafés. Combien de réunions on a pu faire, même dans le monde associatif, dans les cafés? Alors des fois c'est calme, ça dépend à quel on est, mais quand vous tombez en plein moment le quintet arrive et que vous avez tout le monde qui hurle, bon, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous concentrer, c'est pas forcément un lieu propice. Et puis surtout, donc là j'en fais une parenthèse, mais ces tiers-lieux, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, et nous on a beaucoup soigné l'esthétique et le design de ces lieux, parce que c'est ce qui fait le succès de ces lieux. Hein, c'est étant pareil pour les hôtels. On n'a pas inventé le bureau meublé, donc on a inventé un positionnement. Comme vous avez des hôtels qui ont un positionnement. Vous avez des hôtels, des palaces, vous avez des Formule 1, mais on fait la même chose. On a un lit pour dormir. Et en fait, c'est la même offre. Simplement, c'est le niveau de service qui est différent. Au niveau des immobiliers de travail, ce qu'on appelle les espaces de travail, les immobiliers de travail, c'est pareil. Vous avez la possibilité de travailler dans un McDo, parce que vous avez une connexion Wi-Fi, mais vous n'avez pas forcément tous les mêmes services que vous pouvez avoir dans un tiers-lieu avec une salle de réunion, avec une photocopieur, avec tout ce qu'il faut. Donc il y a trois niveaux de commercialisation, et c'est l'intérêt de créer un réseau, c'est pour avoir plus de visibilité, plus de facilité de commercialisation, et éventuellement après des passerelles entre différents lieux. Mais nous on sait très bien qu'on n'aura pas un public dans notre positionnement qui va être mobile. On a nous des publics essentiellement sédentaires.
Jacques.
Oui, mais moi, ce que vous venez de dire là, maintenant, là, en dernier, c'est-à-dire qu'en fait, disons, quand je suis venu vous écouter, on devait parler de télétravail, et effectivement, on ne parle pas de télétravail, mais on parle d'héberger le télétravail. C'est en gros ce que vous êtes en train de nous dire. Effectivement, la comparaison avec un hôtel, on a besoin de dormir, on va à l'hôtel, on a besoin de travailler de télétravailler, on va donc chez vous. Donc c'est un réseau, disons, plus ou moins d'hôtellerie que vous êtes en train de diffuser un petit peu sur le territoire, mais en fin de compte, disons que le télétravail, c'est votre client, c'est pas l'origine. Et de notre côté, effectivement, pour développer le télétravail, j'ai vu que vous étiez plus ou moins associé avec le conseil régional de Midi-Pyrénées, donc c'est effectivement la demande qui devrait être faite, c'est de que nos collectivités organisent plus ou moins ou structurent dans le cadre d'un aménagement du territoire, disons, permettent aux gens de, avec votre solution à vous, mais peut-être avec d'autres solutions, effectivement, disons, d'augmenter le télétravail, puisque à l'origine, effectivement, c'est ce qui est intéressant dans le début de votre présentation, effectivement, c'est intéressant de télétravailler pour économiser la route, etc., etc. Donc, effectivement, vous êtes une petite partie, vous êtes les gens qui hébergent, quoi. On a besoin de dormir, on va dormir chez vous. Quoi.
C'est ça, au départ on est ça, à Rieux-Volvès, on est une infrastructure. Et aujourd'hui on est une entité qui accompagne les collectivités et aussi les investisseurs privés, avec notamment l'article que nous avons obtenu dans le magazine de la région, Midi-Pyrénées Info. Vous avez une belle photo avec des bureaux au milieu des champs. C'est pas un photomontage, on s'est vraiment amusé à emmener un bureau au milieu des bottes de paille. On est aujourd'hui en train de impulser cette dynamique d'implantation de tiers-lieux parce qu'on démontre que le tiers-lieu va contribuer au développement du télétravail en France et dans notre région. Ce qu'on attend des politiques, c'est déjà un qui montre l'exemple. Parce qu'on parlait des entreprises, mais aujourd'hui les administrations sont les premières à devoir aujourd'hui trouver des solutions par rapport à la mobilité. À la veille des grandes régions, je mets au défi un élu ou un agent territorial d'aller tous les jours à Montpellier s'il est muté à la cellule pêche de la région, de la grande région, dont on ne sait pas comment elle va s'appeler. Là, pour le coup, le déplacement pendulaire, c'est plus un pendule, hein, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais là, il va pas revenir, enfin, il va partir une fois, mais il ne reviendra pas le pendule. Hein, ils vont être obligés de montrer l'exemple. Le gouvernement a mobilisé une enveloppe assez conséquente et va inciter la mise en place du télétravail pour les agents territoriaux de l'État. Donc, et toutes les collectivités ont dû être amenées à faire la même chose. Après, vous avez des régions qui ont déjà impulsé une dynamique d'accompagnement des initiatives d'Aquitaine, a mobilisé 4 millions d'euros depuis maintenant plusieurs années pour favoriser la création d'infrastructures dites de tiers-lieux portées soit par des privés ou des publics. Moi ici, quand je dis que j'ai rien demandé à personne, au départ j'ai demandé. Pas bête, si on peut avoir un soutien, c'est toujours bien. On m'a dit, ouais, c'est super ce que vous allez faire, vous allez contribuer au rééquilibrage des territoires, améliorer la qualité de vie, enfin bref, tout ce que doit faire à un moment ou à un autre une collectivité territoriale, vous vous substituez pratiquement à la collectivité territoriale. Sauf que c'est une initiative privée, monsieur. Et on ne peut pas accompagner une initiative privée. Ah bon ? D'accord, bah, ok, merci. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà, et même à tel point qu'à un moment, parce que c'était une initiative privée, on ne pouvait pas en faire la promotion. Donc vous voyez, donc c'est un peu toute la... Mais ce n'est pas grave, on contente tout ça, et maintenant on avance, et maintenant ça y est, ils ont compris l'intérêt et ils commencent à en faire la promotion, puisqu'on a eu un article dans le magazine de la région, mais au départ, c'était pas simple. Donc, mais ça change. Là, je vais interroger les candidats au régional, j'y vais demain pour poser la question à Carole Lelga, j'en poserai la même question à son opposant de droite, la même question à l'opposant Europe Écologie, pour savoir quelle est leur vision par rapport au télétravail et au tiers-lieu, et comment ils pensent soutenir cette initiative. J'en ai parlé à Martin Malvy à l'époque, et il m'avait dit, monsieur Valentin, oui, télétravail, on a essayé il y a 15 ans, ça marchait pas. Je me suis dit, avec tout le respect que je vous dois, il y a 15 ans, la rocade était loin d'être saturée comme elle est aujourd'hui, et puis le métier n'était pas aussi numérisé, donc les mentalités étaient loin d'être celles que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer dans le management à la confiance, le management à la production d'un objectif, à l'atteinte d'un objectif, et pas au présentiel. Hein, on n'est plus dans la logique de pointeuse. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est Nous, c'est le pari qu'on fait. Alors, pas se leurrer, aujourd'hui, la plupart des locataires que l'on a dans les tiers-lieux ne sont pas des télétravailleurs salariés autorisés par leur employeur. On commence à en avoir. Mais ça fait 2 ans qu'on est ouvert et on était très en amont. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs, tous ceux qui veulent sortir de l'isolement et avoir une infrastructure de qualité. Et moi, je dis, c'est pas parce qu'on a la campagne, puisqu'on a la campagne, qu'il faut faire cracra, cheap. Au contraire, c'est parce qu'on a la campagne qu'il faut montrer qu'on a la même, même niveau d'exigence, même supérieur à ce qu'on peut avoir en métropole, et qu'on n'a pas à avoir de complexe d'infériorité parce qu'on est à la campagne, et qu'au contraire, on peut avoir une infrastructure qui pousse. C'est une façon aussi de dire à un entrepreneur qui est à la maison et qui demain va sortir de la maison pour aller dans un lieu aménagé avec tout le confort et puis une connexion internet, bah, ça lui donner toutes les mêmes chances, les mêmes armes qu'un entrepreneur qui aurait la même idée que lui, mais en étant à Toulouse. Moi, je refuse la précarité entrepreneuriale.
Juste un petit mot supplémentaire. Oui, non, pour finir, vous parliez de, justement d'associations d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un lien entre votre lieu et cette association?
Oui, forcément, parce que déjà, c'est le même président. Et donc, des fois, j'essaie de bien avoir mes 2 casquettes. Mais en fait, moi, je dis qu'il faut bien dissocier le lieu qui, en soi, apporte un service de la dynamique autour du lieu. On organise des réunions du club des entrepreneurs au sein du réseau d'entreprise. On pourrait les organiser ailleurs. On pourrait les faire aux Jacobins, on pourrait les faire au Lapin Blanc, on pourrait le faire dans des lieux effectivement qui sont agréables, on peut effectivement être amené à travailler. Donc, mais il s'avère qu'effectivement on a pensé aussi le lieu pour que ce soit un lieu propice aux échanges. Alors, et des fois je ne sais plus dans quel sens ça va, je ne sais plus si ce sont des adhérents du club qui sont devenus après des locataires du relais d'entreprise ou des locataires du relais d'entreprise qui sont devenus ensuite des adhérents du club. Tous les adhérents du club ne sont pas locataires, et tous les locataires ne sont pas adhérents du club. Donc on voit bien qu'il y a du lien. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on nous attend aujourd'hui. Bon matin, quand j'accompagne des collectivités territoriales, des mairies, des communautés communes, des pays, des pôles d'équilibre territoriaux, et qui nous appellent pour dire ce que vous avez fait sur le territoire du Volvestre en partant d'une feuille blanche, est-ce que vous pourrez refaire la même chose chez nous? Et là, vendredi, je vais à Bedouce, pour ceux qui connaissent, dans la vallée d'Aspe, où ils ont décidé de faire un tiers-lieu. Donc ça y est, ils ont acté, ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas appelé pour savoir s'il y avait un potentiel, puisqu'on fait des études de potentiel. Et là, on va en lancer une sur le pays sud-toulousain. Donc, probablement, vous allez voir passer un questionnaire par rapport à d'autres territoires, puisqu'on a un projet d'en faire un sur Cazet, on a un projet de faire un relais d'entreprise à Riom et à Haute-Rive sur les 4 bassins de vie du pays sud-toulousain. Parce que la zone d'influence est très courte. Un tiers-lieu, si c'est pour faire une demi-heure pour y aller, je ne vois pas l'intérêt. Donc on est sur une zone de 15-20 minutes. Hein, et donc c'est pour ça qu'il faut faire un maillage, parler de réseau, parce que la zone est très courte. Hein. Et souvent les collectivités, l'erreur qu'elles font, c'est qu'elles vont faire des gros bazars avec un investissement d'1,5 million, 2 millions d'euros avec nos impôts, et avec, en essayant d'y mettre tout, et en disant à toute la population sur une zone de gérantie très large, maintenant vous venez là. Alors qu'il vaut mieux, aujourd'hui on est en train de faire des partenariats avec Pôle emploi. Fort probablement, d'ici la fin de l'année, Relais Entreprise sera un point relais, un relais de relais, de Pôle emploi. Pourquoi? Parce que Pôle emploi est en train de fermer ses agences. Il est en train de fermer l'accès à ses agences aux demandeurs d'emploi. Parce qu'ils ne veulent plus que les demandeurs d'emploi prennent leur voiture, souvent qu'ils n'ont pas, mettent de l'argent dans leur carburant, alors qu'ils sont déjà en précarité, pour faire quoi? Aller voir un panneau avec des annonces qui ne les concernent pas forcément. Ou aller voir un conseiller qui n'est pas forcément disponible ce jour-là. Donc aujourd'hui, on va travailler avec de la visio, on va travailler avec ce qu'on appelle des MOOC, hein, des solutions donc de formation à distance, donc des tutoriels, pour faire en sorte d'éviter à la mobilité de Pôle emploi, des demandeurs d'emploi. Donc on va faire des partenariats, on va le faire aussi avec la CCI, qui est aussi une problématique de présence sur le territoire auprès des entrepreneurs. Parce que le combat qu'on mène avec le télétravail, on mène le même combat avec la visioconférence. Aujourd'hui, les entrepreneurs, là, demain soir, c'est encore une soirée, mais je vais effectivement aller à Toulouse, j'ai la réunion à 18h, je crois que c'est à 18h, à la CCI avec la présentation de Carole Delga, je ne suis pas rentré avant 21h-22h. Pourquoi toutes ces manifestations ne sont pas reproduites par visio? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Simplement le manque de réflexe. On a tout. pas me dire que la CCI, ils ont une salle vision magnifique, je vais mettre une caméra, mais moi je pourrais le faire d'ici. On l'a fait pour la Startup et dans le Pré, qui est un concours qu'on a organisé l'année dernière, au mois de septembre, un concours de création d'entreprise, où le Club des Entrepreneurs a fait venir 52 porteurs de projets le temps d'un week-end sur Carbone. On a des porteurs de projets qui sont venus de Lille, de Paris, de Marseille, bien sûr de Toulouse et du territoire. On avait relayé l'événement par satellite, on a fait venir la Wi-Fi, et on pouvait effectivement faire de la vision, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, s'affranchir de la mobilité, hein, c'est un point important. Il y avait une question.
En fait, c'était pour rebondir sur ce que disait monsieur par rapport à...
En fait, c'était pour rebondir sur la question que posait monsieur sur le fait, sur l'idée de l'hôtel à télétravailleurs. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être télétravailleur pendant 4 ans. J'ai eu la chance d'avoir un employeur qui a accepté ça. J'ai vécu un petit peu tout ce qu'il y a dans ce que vous avez présenté. C'est-à-dire, je suis assez en phase avec ce que je vois, les problèmes de suspicion, les problèmes d'isolement, tous les problèmes que ça génère. Et pour rebondir là-dessus, la problématique, effectivement, c'est que les collectivités locales, en général, ils ont souvent besoin d'une initiative privée ou associative qui leur fasse la preuve que le concept fonctionne pour commencer vraiment à adhérer au problème. Je fais partie d'une association qui fait de l'accès Internet à haut débit sur des zones qui ne sont pas couvertes par les... Donc je suis un petit peu dans cette problématique-là aussi. Et à chaque fois qu'on a affaire à des élus et qu'on va parler de la possibilité d'amener le haut débit pour des... pas forcément élevés, etc., on a ce même genre de problématique où effectivement il faut prouver. Et donc la preuve doit être faite, et la plupart du temps, ce sont les entreprises privées qui font la preuve que ça marche, et ensuite les collectivités qui embrayent derrière. La plupart du temps, c'est comme ça que ça... Donc du coup, on est un peu dans l'obligation, la plupart du temps, de un peu y aller au forceps, et puis de faire, comme vous dites, sans les institutions au départ, et puis après, ça finisse par embrayer au-delà.
Tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que souvent, les collectivités qui nous sollicitent vont par exemple financer l'étude de faisabilité et on va leur fournir tout l'analyse des flux pendulaires, on va faire de la cartographie, ce qu'on appelle SIG, on va faire l'enquête auprès de la population, on va mesurer le potentiel. Mais derrière, dans la mise en œuvre opérationnelle, aujourd'hui, d'autant plus avec la loi NOTRe, avec la baisse de dotation, avec toutes les prérogatives que les communautés de communes ou les pays récupèrent, puisqu'ils récupèrent les permis de construire, ils récupèrent effectivement beaucoup de sujets, ils basculent la mise en œuvre opérationnelle à des privés. On a été très loin, Relais Entreprises, dans notre volonté de faciliter le déploiement du réseau, puisque nous avons allé jusqu'à même développer un concept clé en main avec une entreprise de l'Aveyron qui s'appelle Boissière et Fils, qui est un spécialiste de la structure à ossature bois. Et on a développé un concept éco-construit de tiers-lieu qu'on a présenté, vous aviez tout à l'heure la maquette qu'on a présentée lors du salon Ruralitique. On a affiché ce partenariat, puisqu'ils étaient aussi eux très soucieux des valeurs en matière de développement durable et d'ancrage territorial. Donc on s'est beaucoup retrouvé avec Frédéric Boissière, le fondateur de cette entreprise familiale de l'Aveyron. Donc pour vraiment mâcher le travail. Et là aujourd'hui je suis en train d'aller encore plus loin sur le plan de financement, puisque l'objectif c'est qu'à chaque fois qu'on va ouvrir un tiers-lieu, on crée une société locale dont le gérant actionnaire majoritaire soit un des futurs locataires du territoire qui va effectivement être à la fois le gardien du temple du relais d'entreprise, mais qui va aussi gérer et occuper un peu l'espace et qui va en faire la promotion. Et on est aujourd'hui de plus en plus sollicité. Quand on a fait par exemple une étude à Grenade dans la communauté de communes Salé-Garonne, parmi les personnes qui ont répondu à l'enquête d'intérêt auprès de la population, il y en a une personne qui s'est manifestée en disant « c'est génial, moi je travaille à la maison, j'en ai marre, mais non seulement je serai locataire, mais si à un moment ou à l'autre il faut être parmi les investisseurs, vous pouvez compter sur moi parce que c'est un investissement que je veux faire et c'est un investissement qui a en plus un impact sur l'attractivité de mon territoire. Donc je m'y retrouve en matière de qualité de vie, pour mes enfants, enfin voilà, donc on est sur une logique citoyenne et pas, voilà, et la collectivité ça lui va bien. Donc il y a des partenariats comme ça qui se font, peut-être qu'on fera ce qu'on appelle des SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt, je sais plus, un collectif, mais bon, avec un statut un peu hybride, mais c'est compliqué après quand on a une gouvernance.
Oui, j'ai eu un peu peur tout à l'heure dans votre présentation, quand vous avez parlé du projet, je crois que c'est du président de Windows qui veut faire tout sur place. Ça m'a rappelé quelques souvenirs des mines du Nord ou de Michelin
sur place. Mais ce n'est pas le sujet de mon intervention. Il se trouve que j'ai deux enfants qui, par leur travail, ont été amenés à être très éloignés, l'un en Argentine et l'autre à New York, et que d'un seul coup, j'ai découvert un instrument extraordinaire qui me permettait de voir mon fils en maillot de bain et ma fille dans son appartement. Appartement dans lequel, enfin plutôt appartement qu'elle vivait en colocation, dont la moitié était payée par l'entreprise, et donc dans cet immeuble luxueux, il y avait la salle de gym, la piscine, et à l'étage, un grand balcon qui permettait de faire les grillades et de se réunir. Et en plus, elle avait la possibilité de télétravailler, c'est-à-dire que la navette partait de l'entreprise à telle heure, donc on fermait les bureaux et elle rentrait, et là, elle télétravaillait à la maison, c'est-à-dire qu'elle finissait son travail par rapport aux objectifs qu'on lui avait donnés. C'est-à-dire qu'elle travaillait sur des projets. Et des projets qui devaient être terminés à l'heure dite. Alors, moi je vois bien entendu quelque chose de très intéressant dans le télétravail, mais j'y vois, en tout cas en zone rurale, j'y vois une difficulté. Nos enfants, j'ai 70 ans, sont déjà dans cette avancée. Ils maîtrisent tous les outils. Et ils sont en train de pousser les 45-50 ans vers la porte, parce qu'ils maîtrisent de plus en plus les outils, mais ils ont une demande. C'est une demande de loisir. C'est une demande de trouver des choses que nous n'avons pas ici en ruralité. Les pronomades, par exemple, qui sont des choses extraordinaires, pour moi, ils s'en foutent, mais alors complètement. Ce qui les intéresse, c'est de retrouver leurs potes sur le pont Saint-Pierre et de pouvoir aller faire un certain nombre de choses. Voilà l'obstacle que je vois dans le télétravail et le tiers...
Tiers-lieu.
C'est pour moi, je pense, un très gros obstacle. Alors, c'est vrai qu'il y a un magnifique bowling à Rieux. Je ne sais pas si ça va leur suffire.
Mais je vous entends. J'entends votre témoignage avec effectivement vos enfants qui ont effectivement des postes à l'étranger, qui ont effectivement accès à une pratique managériale déjà ouverte. Moi, je refuse malgré tout une certaine fatalité de se dire que dans les territoires ruraux, on ne peut pas avoir la même qualité de vie que l'on peut avoir dans les centres métropolitains. Effectivement, on a un bowling, mais on n'a pas qu'un bowling, on a aussi aujourd'hui du wakesurf, on aura sûrement demain d'autres infrastructures. Vous avez une jeune start-up qui s'appelle Paynem, qui a fait la une encore des médias dernièrement, puisqu'ils vont installer leur campus. Paynem, c'est quoi? C'est une entreprise de la nouvelle génération de l'Internet qui ambitionne de révolutionner le système bancaire, le système des paiements. Vous connaissez PayPal pour ceux qui achètent sur Internet. On est sur une solution qui permet de payer entre particuliers avec une notion de sécurisation, et notamment quand on achète sur le bon coin et qu'on ne veut pas envoyer le chèque sans être sûr que ce qu'on a acheté correspond à ce qu'on voulait acheter, enfin bref. Et donc ils ont trouvé effectivement des solutions. Ils auraient pu rester au centre de Toulouse, à la cantine. Ils ont décidé de construire un campus, comme on l'a en Californie, avec un mur d'escalade, avec une salle de squash, avec une cuisine. Pourquoi ? Parce que parmi les salariés de cette entreprise, ils seront très rapidement une trentaine, vous avez des programmeurs. Les programmeurs, c'est une drôle de bestiole. Avant, on avait les commerciaux qui étaient des drôles de bestioles. Un programmeur, c'est quelqu'un qui fait du codage informatique. Et le collège informatique, il peut se trouver entre minuit et 3h du matin. Et à 3h du matin, pour se récompenser d'avoir trouvé le code qui va bien, on va se faire une plâtrée de pâtes. Mais avant la plâtrée de pâtes, on va se faire une petite match de ping-pong, parce que ça va nous libérer les neurones. Et c'est ça, ce genre de public qu'on a aujourd'hui dans les entreprises, où il n'y a plus de cloison entre vie privée et vie professionnelle. On va au travail en tongs, parce qu'il n'y a pas de dress code, il n'y a plus cette notion de lien hiérarchique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de respect, c'est que la notion de contrat n'est pas forcément recherchée. Vous avez aujourd'hui des jeunes générations, ce qu'on appelle les digital natives, qui ont toujours connu le monde de l'Internet. Ils n'auront plus la même vision, et vous avez raison, le loisir passe souvent avant la priorité du travail. Vous avez aujourd'hui on a beaucoup d'exemples de personnes qui viennent s'installer dans le Volmestre, mais qui ont décidé, et non pas qui n'ont pas subi. Moi, je me suis un peu révolté face à un ouvrage qui s'appelle « La France des périphéries », qui en fait expliquait la chose suivante, c'est que, en fait, dans les métropoles et centres-villes, on trouve l'élite, la richesse. Et tous ceux qui ne sont pas en centre métropolitain, c'est les losers. J'ai trouvé que c'était un peu raide. Je dis, certes, il y a une localisation subie. Oui, quand on n'a pas les moyens d'acheter une maison ou un appartement de 120 m² ou 140 m² pour avoir un peu d'espace, on se loge un peu plus loin que le centre-ville. C'est vrai. Mais il y a une localisation voulue, décidée. Moi, j'ai décidé d'habiter ici. C'est pas parce que j'avais pas forcément les moyens d'aller en centre-ville, c'est que j'avais envie que mes gamins, j'ai deux enfants, un petit il a 10 ans, ma gamine elle a 14 ans, vivent ce que j'ai vécu moi dans mon petit village de 500 habitants dans les Ardennes, c'est-à-dire aller faire du vélo, aller se balader dans un champ, aller cueillir des champignons, aller manger une pomme dans un verger sans avoir peur de se faire courser par un paysan parce qu'on lui a piqué une pomme qui de toute façon va pourrir au pied de l'arbre. Voilà, donc c'est ça la campagne. Et cette notion aussi de proximité, de bienveillance, que l'on n'a pas en centre-ville, et qui sont en train d'essayer de recréer dans les quartiers. La fête des voisins, cette blague. Oui, on nous dit à un moment ou à un autre, il faut faire la fête avec les voisins. Alors, on est obligé de dire aux gens qu'il faut faire la fête avec les voisins. Je suis désolé, mais quand on a un peu de convivialité, on n'attend pas qu'on vous dise d'aller faire la fête avec les voisins. Enfin, on va donner un coup de main aux voisins. Hein. Et donc c'est ça aussi la richesse que l'on a sur nos territoires. Et si vous avez des porteurs de projets comme Xavier, qui vient du Nord-Pas-de-Calais, qui lâche tout avec son épouse qui est tchèque, et qui lâche son poste chez Decathlon, et qui elle lâche son poste d'architecte pour investir plus de 600 000 euros sur une gravière de Vika pour créer son parc de wakesurf, ils ont tout lâché. Et ils ont même tout lâché, ils ont réussi à convaincre leurs parents de vendre également leur maison du Nord pour venir s'installer sur, je crois qu'ils ont habité maintenant sur Marquefave, enfin, ils ont trouvé une maison à acheter à Marquefave. Ils ne sont pas allés à Toulouse. Ils ont décidé, ils viennent de Lille, une grande ville. Bon, c'est le Grand Nord, mais ils viennent de Lille. Donc, pour dire qu'on a une attractivité. Hein. On a dans les réseaux sociaux, juste après les vacances, parce qu'on voyait tout le monde qui faisait la gueule après les vacances du mois d'août, on a fait dans les réseaux sociaux pas mal de messages qui consistent à dire, et notamment à destination des Parisiens, puisque 8 Parisiens sur 10 rêvent de quitter Paris. On leur a dit, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'attendre 5 semaines par an pour vous ressourcer et témoigner dans les réseaux sociaux? Vous êtes allé dans le Volvestre, ils ne le disent pas trop, mais ils pourraient le dire, mais dans le Cantal ou dans n'importe quel lieu où il fait bon se ressourcer, où c'est calme, où ils ont super bien dormi, ils ont super bien mangé, il y avait du confit, il y avait des trucs, des bidules, des machins, machins. Mais je dis, mais faites l'inverse. Arrêtez de vous faire chier pendant 47 semaines à Paris pour vous ressourcer 5 semaines par an dans des lieux où il fait bon vivre, où l'immobilier est en plus attractif, faites l'inverse, vivez 47 semaines dans le sud toulousain et allez vous faire chier 5 semaines par an à Paris quand vous aurez des rendez-vous. Mais c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir décider de là où on a envie de vivre parce qu'on arrive à travailler ailleurs que là où on a l'habitude de travailler. Simplement, il faut effectivement provoquer cette changement d'organisation. Moi, je suis en train d'essayer de faire de la relocalisation d'activité. J'étais en Corse hier j'étais en Corse, et les Corses souffrent. Les Corses souffrent parce qu'effectivement, beaucoup de territoires, ceux qui ne sont pas les plus touristiques, voient leur population partir soit sur les métropoles, soit sur le continent, alors qu'ils pourraient, un moment ou un autre, faire revenir des populations. Moi, je suis originaire des Ardennes. Les Ardennes, c'est un des rares départements qui se dépeuplent. On a la chance quand même, c'est qu'on est toujours au sud de quelqu'un. Et donc les Ardennes sont au sud de quelqu'un. et ils sont aussi peu de la Belgique, et des Pays-Bas. Hein, donc on est en train d'essayer de dire aux habitants de Bruxelles et d'Amsterdam, qui ont tous des résidences secondaires dans les Ardennes, qui viennent tous dans les chambres d'hôtes, en disant, mais vendez votre maison à Amsterdam, gardez un petit pied à terre pour faire votre business, et avec ce que vous allez vendre à Amsterdam ou à Bruxelles, vous allez pouvoir acheter le meilleur des châteaux, les plus grandes des demeures dans les Ardennes, et comme ça, vous allez passer 4 jours ou 5 jours par semaine dans les Ardennes, et vous allez passer 3 jours par semaine à Bruxelles ou à Amsterdam pour vos affaires. Vous voyez, on renverse un peu la tendance. Il y avait d'autres questions, si je peux parler.
Je vous propose de passer une dernière question. Après, on va écouter ce qui nous a été préparé.
Oui, je voudrais parler d'un sujet qui n'a pas été abordé au fait dans les réticences des entreprises, c'est l'accès à leurs données, la sécurité pour l'accès à leurs données. Parce que je travaille, je suis programmeuse en informatique. Je vais sur Toulouse tous les jours.
Vous mangez des pâtes à 3 heures du matin?
Non. Ça, non, je ne le fais plus maintenant. Voilà. Mais bon, alors, tous les freins pour le télétravail que vous avez évoqué, ils sont réels. Effectivement, les entreprises sont très attachées au présentéisme. Hein, ça, c'est, mais on vous rétorque en plus, ben oui, mais tu dois accéder à des données sécurisées, des données confidentielles. On ne va pas tirer une ligne rien que pour toi, pour que tu travailles à ton domicile, quoi, en fait. Voilà. Et il y a tout cet aspect-là aussi... qui fait peur aux entreprises d'avoir l'impression que leurs données partent dans la nature.
C'est vrai, mais vous savez, de plus en plus, avec notamment le nomadisme, les cartes 3G, la plupart des DSI ont réussi à trouver des solutions de pare-feu et pour pouvoir effectivement sécuriser les données informatiques. Ah, c'est vrai que le fait de le faire dans un tiers-lieu, et nous on a eu cette question de la part notamment de Thalès, c'est quand même plus facile de sécuriser des données notamment avec ce qu'on a mis en place, nous, au relais d'entreprise de Rivolvest, puisqu'on a une baie, on a un routeur, hein, avec effectivement un paramétrage de chaque bureau, puisqu'on a des bureaux individuels avec des prises RJ, donc on n'est pas en mode Wi-Fi, on peut être en mode Wi-Fi, on peut être surtout en mode filaire, donc ce qui fait que chaque prise peut avoir son protocole de sécurité que l'on peut gérer avec notamment notre opérateur qui s'appelle Alsatis. Donc on sait apporter des réponses, y compris même des réponses en matière même de coûts, parce que mettre ça en place dans une entreprise, c'est un coût beaucoup plus important que si on l'utilise. On a mis en place une antenne pour effectivement avoir du 4 mégas. Ben, un privé ne va pas investir dans une antenne qui coûte plusieurs milliers d'euros avec une connexion internet de 4 mégas qui coûte plusieurs centaines voire milliers d'euros. Donc nous, on peut l'utiliser parce qu'on a 10 bureaux et ramener au coût d'un bureau, comme nous, on loue des bureaux, comme on dit, all included, hein, tout compris, parce que c'est vrai, c'est la particularité, j'espère que ça ne bougera pas, mais les tiers-lieux se développent et l'offre que l'on met en place se développe parce qu'on a une brèche, une belle brèche. On est prestataire de services à partir du moment où on loue des bureaux meublés connectés à Internet avec le ménage et l'électricité et on échappe au contrat de bail 3-6-9. Donc, c'est qu'on peut louer à l'heure, à la demi-journée, à la journée, au mois. On a une souplesse totale dans l'usage des bureaux. Mais c'est vrai que le tiers-lieu va permettre d'apporter un argument supplémentaire à un employeur qui est réticent.
Rebondir sur ce que disait
la dernière intervention.
Merci.
Je rebondis sur ce que vous dites. Moi, je suis en télétravail depuis 3 ans et je trouve que cette question de sécurité, c'est un faux problème pour l'entreprise. C'est... Moi, je prends la main, mon ordinateur est à la défense. J'habite à Rio, je prends la main sur mon ordinateur à la défense. J'ai des clés d'accès, comme tout le monde, comme tous les salariés, les mêmes qui sont à la défense, et avec les smartphones, les tablettes, moi j'ai des collègues à la défense, ils partent de la défense, ils vont à Montreuil, Paris, ils embarquent des données avec eux. Ça a plus de risques que moi prenant la main, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un faux problème, et c'est une manière de dire qu'on ne veut pas développer ça parce que, mais c'est juste une... Voilà, c'est juste...
Et souvent, les freins au télétravail, on le voit assez facilement dans les entreprises, c'est pas le DRH ni la direction générale qui bloque, c'est souvent le management intermédiaire. C'est celui, entre guillemets, ce qu'on appelle le petit chef, hein, qui a peur de perdre son pouvoir. Et puis parce que aussi, on est dans un schéma souvent d'impulsion dans le management. « Ah, mais tiens, je te croise, j'avais un truc à te dire, ça tombe bien, je te vois. » Mais ça, ça n'existe plus. Alors, on est en train de s'amuser, puisqu'il y avait un salon la semaine dernière qui était le CIAN, qui est un salon de la sous-traitance. Il y avait notamment tout un pavillon sur la robotique. Et il y a une petite entreprise, une start-up qui a développé, et on va s'amuser à mettre en place, parce qu'on va provoquer justement un peu le débat avec la mobilité, qui a développé une espèce de petit robot, une petite potence sur une chenille, sur lequel on vient mettre un smartphone, et à distance, on peut prendre la main sur notamment la tablette et le robot. C'est-à-dire que le petit chenillard, il peut se déplacer. Donc c'est-à-dire que le télétravailleur, imaginez que vous soyez au relais d'entreprise de Rivolvest, et que l'organisation de réunion s'organise dans le bureau d'à côté de là où vous êtes habituellement, ben vous pourriez vous déplacer avec votre robot et on verrait votre tête et vous verriez ce qui se passe au niveau de vos collègues. Et vous pourriez même partager un café à la machine à café quand bien même vous n'avez pas fait la route pour aller les rejoindre le matin. Et c'est ça, cette notion de présentiel. On est, et peut-être on va finir là-dessus, mais souvent dans tout ce qui est innovation, ce ne sont pas les scientifiques qui ont été les précurseurs ou les plus visionnaires en matière d'innovation, sont-on les romanciers. Vous regardez les romans de Wells, qui étaient les premiers à décrire le téléphone, bien avant qu'on invente le téléphone. Mais vous voyez, la téléportation, on n'en est pas loin quelque part. On est un peu dans cette notion de téléportation. On va avoir ce don d'être un peu partout en même temps, parce qu'on va avoir un petit robot avec sa tête, hop, qui est au travers d'une tablette, qui va se déplacer, comme si vous étiez vous-même dans le lieu, alors que vous êtes à 1000 km. On le voit déjà avec la visio. Quand on aura une visio avec en plus des rendus 3D, vous aurez presque l'impression d'avoir un hologramme, et les hologrammes vont arriver aussi, d'avoir une personne assise en face de vous, alors qu'elle est à des milliers de kilomètres. On parlait tout à l'heure de Skype, qui permet de discuter avec ses enfants alors qu'ils sont à New York. C'est déjà des révolutions, mais maintenant, c'est des mentalités qui vont faire évoluer.
Évoluer aussi par l'adoption de l'agilité dans les entreprises de plus en plus. En général, c'est assez lié au fait que l'entreprise n'a pas encore basculé dans l'agilité.
C'est vrai.
C'est souvent ça le refus du télétravail.
Merci. Vous parliez de visionnaire, de romancier. On pourrait ajouter Van Vogt et Asimov dans le domaine des robots et dans le domaine de la téléportation. Merci beaucoup. Et on va se téléporter à peu près.